qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui Monsieur Derek Christie, qui est donc chercheur en mobilité. Et je vais lui laisser tout de suite la parole, c'est son domaine. Qu'est-ce que je peux dire sur votre intervention, pourvu que ça marche?
Oui.
Voilà.
Merci, bonjour messieurs, dames. C'est un exercice un peu particulier que je vais faire parce qu'en général, j'avoue, je suis plutôt un disciple de PowerPoint. Et cette fois-ci, le PowerPoint, je ne l'ai pas oublié à la maison, mais il n'y a pas d'ordinateur et pas d'écran. Donc le PowerPoint, il est là, mais on a décidé de faire un cours ex cathedra. Et puis, ça m'aide quand même de savoir qu'il est là quelque part. Mais je vais vous reparler de ça tout à l'heure, vous verrez, ça va revenir dans la discussion. Alors, effectivement, je suis chercheur en mobilité et je fais deux, trois autres choses aussi, mais c'est vraiment avec cette casquette-là que je me présente aujourd'hui. Je suis chercheur à l'EPFL au laboratoire de sociologie urbaine qui traite principalement de mobilité, comme le nom ne l'indique pas forcément. Mais quand même, la sociologie urbaine est fortement liée au transport et à la mobilité en général. Je suis aussi lié à l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, aussi sur des questions d'environnement, de santé en ville, avec ou sans la mobilité cette fois. Alors, je suis surtout ici pour vous parler de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2018, donc l'année dernière, et qui traite en fait de personnes qui se trouvent déjà en 2037, en quelque sorte. Alors, évidemment, je ne connaissais pas le titre, ni le nom, ni l'intitulé de cette exposition quand j'ai décidé de mon sujet de thèse en 2013. On a soumis au Fonds national de la recherche scientifique, que je cite donc comme seul organisme qui a financé cette recherche. Et cette recherche a donc démarré en 2014, a fini en 2018. Et ça s'appelait en anglais Frequent Walkers, donc marcheurs fréquents, que j'ai traduit quand même en français par grande marcheuse, grand marcheur, parce que je trouvais que le marcheur fréquent, même si c'est bien de ça qu'il s'agit, quelque part ça passait moins bien qu'en anglais. En anglais on a les Frequent Flyers, comme vous savez, qui reçoivent des miles, plus ils se déplacent, plus ils polluent, en guillemets, ben, plus ils reçoivent des cadeaux. Et les Frequent Walkers, ben, forcément, ne reçoivent pas des miles et reçoivent parfois plutôt la pollution des autres, etc. On va en parler. Alors, juste pour vous dire, situer un petit peu, donc je suis biologiste au départ, biologiste de santé publique. Je voulais travailler dans le domaine de la mobilité. Je me suis dit, c'est sur quoi que je vais travailler. Je m'intéressais beaucoup au transport public. J'ai d'ailleurs été une des personnes, parmi beaucoup d'autres, qui ont milité pour qu'il y ait le CEVA qui se fasse aujourd'hui, qui est presque terminé maintenant. Il ne s'appelait pas CEVA à l'époque, mais ça c'est une autre histoire dont on pourrait parler très très longtemps. Et l'autre sujet qui m'intéressait, c'était la marche, parce que je suis désolé pour les cyclistes ici, mais il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur le vélo, il y a énormément d'initiatives en faveur des pistes cyclables qui malheureusement ne sont pas toujours couronnées de succès, mais il y en a beaucoup. J'ai l'impression quand même qu'il y a un lobby du vélo, qu'il est relativement fort, en tout cas comparé au lobby des piétons, qui est presque inexistant. Et qu'il y a quand même un objet, donc le vélo, avec les fabricants, les réparateurs, un certain réseau, on arrive à se trouver dans des endroits, on reconnaît une cycliste ou un cycliste dans la rue, mais pour quelqu'un qui est piéton, c'est beaucoup plus difficile. Alors mon petit côté santé publique a fait que j'ai regardé toute la littérature scientifique avant de commencer, enfin toutes celles qui me paraissaient pertinentes, sinon j'y serais encore évidemment. Et puis je me suis rendu compte que les sujets qui traitent de la marche, il y en a beaucoup moins que pour le vélo, c'est absolument clair. Et quand on parle de la marche, c'est un petit peu un défaut stratégique, je dirais, de mes collègues en santé publique, on parle de ceux qui ne marchent pas. On parle que c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. On va dire les personnes qui, malheureusement, à cause d'un handicap ou à cause d'un problème ou parce qu'ils ont peur de sortir chez elles pour plein de raisons, ne marchent pas assez. Là, vous avez des dizaines, des centaines d'articles à travers le monde. Quand vous voulez vous intéresser aux gens qui marchent, qui font, par exemple, les 10 000 pas par jour, dont on parle parfois, eh bien, il n'y avait rien. Mais en tant que chercheur, on adore ça parce que c'est ce qu'on appelle un « research gap ». Ça veut dire, je vais pouvoir me mettre là-dedans, je vais pouvoir demander de l'argent au Fonds national de recherche scientifique, et peut-être ça va marcher, ça va marcher. Sinon, je ne serai pas ici ce soir. Alors, j'ai décidé d'appeler ces personnes dont je soupçonnais l'existence, mais en fait, personne ne les avait décrites, donc c'était un petit peu un risque. j'ai décidé de les appeler frequent walkers. J'avais ces 10 000 pas un peu dans la tête. Et puis, j'ai fait quelques pas moi-même. J'ai chargé quelques applications sur mon téléphone portable. Et je me suis aperçu que les 10 000 pas correspondaient à peu près, en tout cas dans mon cas, à 2 heures de marche par jour. Évidemment, il y a une partie qui se fait dans les bâtiments, une partie à l'extérieur des bâtiments. Les gens en santé publique s'intéressent aux pas qui sont à l'intérieur des bâtiments parce que c'est de l'activité physique. Mais moi, avec une approche quand même un peu plus urbanistique, peut-être, hypothèse comme certaines des personnes ici ce soir, ce qui m'intéresse, c'est les pas qu'on fait à l'extérieur des bâtiments. Donc déjà là, il a fallu faire en fait plein de définitions préalables. Et la seule définition que j'ai vraiment refusé de faire, et là j'ai eu des conseils des rares chercheuses et chercheurs dans le domaine qui existent, c'est surtout ne pas décider au départ si on va étudier la marche pour se déplacer, la marche de loisir et la marche d'exercice. Ça, c'est des termes dans la littérature, walking for exercise, walking for leisure, walking for transport. Ne pas séparer ça au départ parce qu'on se piège, parce que si vous êtes marcheuse et marcheur, vous savez très bien, il n'y a pas toujours une fonction, il n'y a pas toujours une raison de marcher. Si vous décidez d'aller dans un magasin, acheter quelque chose, vous longez la route, puis au retour, vous prenez par le parc, est-ce que c'est vraiment parce que vous allez de A à B, c'est aussi parce que vous voulez prendre un chemin plus sympa, c'est peut-être aussi pour vous faire du bien, ou parce que vous n'avez pas pu aller au sport, vous dites, ben, je vais marcher un peu plus vite, et ça fera mon sport. Donc, pas décider ça au départ, par contre, décider au départ d'un certain seuil d'entrée dans le club des grands marcheurs, et j'utilise le terme grand marcheur, grande marcheuse de manière interchangeable, et c'est en gros 1 heure de marche par jour dans l'espace public, c'est-à-dire en dehors des bâtiments et des espaces comme les centres commerciaux, les campus, etc. Donc 1 heure de marche minimum en dehors des bâtiments la plupart des jours de la semaine. La plupart des jours de la semaine, c'est aussi une définition typique de santé publique quand on veut analyser un comportement fréquent. Mais si vous dites que c'est tous les jours, vous allez perdre la plupart des gens, parce que même quelque chose qu'on fait hyper souvent il y a un jour ou 2 jours dans la semaine, on ne le fait pas. Par contre, si vous dites 2 jours par semaine, vous allez prendre des gens qui vont à la montagne 2 jours et qui le reste du temps sont dans leur voiture ou sur leur vélo. Et c'est pas ça qui m'intéressait.
Est-ce qu'il y a une vitesse pour cette heure de marche?
Pas du tout au départ. En tout cas, moi, j'ai rien fixé au départ. C'était juste le temps. C'était 1 heure. Et en pratique, la plupart des gens que j'ai eus, c'était plutôt autour des 2 heures de marche à l'extérieur. Si vous ajoutez ce qu'ils font à l'intérieur, il y en avait qui, j'imagine, étaient autour des 3 heures de marche par jour. Mais ce n'est pas absolument énorme. J'ai eu une septantaine de personnes que j'ai réussi à recruter. Et j'ai pas tout. Pour certaines d'entre elles, ça me permet de changer un peu l'ordre de ce que je voulais dire, mais ça va très bien. Pour certaines d'entre elles, j'ai réussi à leur donner quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, justement. C'est pour ça que je suis content de l'avoir pris. C'est une sorte de clé USB, mais qui a à l'intérieur, non pas un podomètre, mais un capteur, et pas émetteur, un capteur et enregistreur de points GPS. Donc, un sous-ensemble de ces personnes que j'ai recrutées, je leur ai donné cette clé USB, c'est pas celle-ci, mais elle ressemble un peu. Et puis, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait la charger tous les soirs, des fois les gens oubliaient, etc. Ou elles se souvenaient de la charger, mais pas de la prendre le lendemain matin. Donc, c'est assez compliqué, ces histoires de fieldwork, comme on les appelle en anglais. Mais grâce à ça, j'ai pu savoir exactement ces personnes-là, combien de temps elles faisaient, et les vitesses étaient autour du 4,5 km/h en moyenne. Et il y avait peu de gens qui marchaient beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement que ça. Mais j'en ai quand même eu un qui faisait quasiment du 7 km/h et qui marchait. Alors, j'ai oublié de dire que tous ces gens étaient en Genève et Lausanne, enfin en Genève et Montreux, mais presque tous en Genève et Lausanne. Il y avait des gens que j'ai recrutés qui étaient vraiment citadins dans les villes-centres, d'autres plutôt dans les banlieues, on peut dire, première couronne, et d'autres qui étaient vraiment campagne genevoise, campagne vaudoise. Pour le lieu d'habitation. Donc j'étais assez bien à ce niveau-là. Il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens qui travaillent, des gens qui travaillent moins, des gens qui ne travaillent pas, etc.
Oui. Pour les trouver, vous avez mis des annonces.
Exactement. Alors ça, j'allais le dire avant, mais ça me va très bien de le dire après. Donc, il y a quelque chose en recherche scientifique qui s'appelle les hypothèses non formulées. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument génial, parce que par définition, on ne sait pas ce que c'est. Alors nous, on avait mis, nous c'est donc moi et mon prof Vincent Kaufmann, comme je le mentionne, mon directeur de thèse, sans qui rien ne serait passé. On a décidé, on s'est posé cette question dès le début, comment on va aller trouver ces gens? Pardon. Puis on a écrit à la demande qu'on a faite au FNS, nous allons utiliser essentiellement deux méthodes. Une méthode, c'est d'aller dans les endroits où on sait qu'il y a beaucoup de marcheurs, et on va leur parler, et puis comme ça, on va les recruter. Ça, c'était la première grande idée. Autre grande idée, c'est ce qu'on appelle du snowballing. Ça veut dire que même si la première méthode ne fonctionne pas très bien, on arrive quand même à attraper 2-3 personnes. Mais ces personnes-là vont pouvoir nous présenter d'autres participantes ou participants à l'étude, etc., etc. C'est le snowballing, donc la boule de neige. Et on a mis ça dans la demande au FNS. Tout le monde a dit OK. Il n'y a aucun des trois reviewers indépendants qui a dit que c'était un problème. Et ça a été un vide total. J'ai été au moins vers 50 ou 60 personnes en Genève et Lausanne, dans des endroits où on savait qu'il y a beaucoup de personnes qui marchaient beaucoup, et j'ai recruté 0 personne. C'était un échec total. Je donnais des fois ma carte, des fois un numéro de téléphone, des fois un flyer que j'avais fait exprès. Aucun succès. Et le pire, donc j'ai réussi quand même à recruter quelques personnes, je vais vous dire comment, mais les personnes qu'on a difficilement réussi à recruter ne connaissaient pas d'autres grands marcheurs. Et ça, c'était une énorme surprise. Parce qu'une des hypothèses qu'on avait, qui était un petit peu formulée quand même, c'était que les grands marcheurs formaient éventuellement ce qu'on appelle une communauté informelle. La communauté informelle, l'image qui me vient, c'est celle des surfeurs. Si vous connaissez un peu le lac, vous allez à la Tour Carrée, il y a un ou deux bistrots, les gens ils se connaissent, ils se reconnaissent, certains ont des vannes où ils peuvent mettre leurs planches, ils vont un peu dans les mêmes magasins, voilà, les gens ils se rencontrent, il y a une communauté informelle. Ils ne sont pas forcément membres d'une association qui existe par ailleurs, ou deux, je ne sais plus, mais il y a ce côté informel, je me suis dit, ben, puis mon prof qui lui est un vrai sociologue, pas comme moi, il s'est dit, ben, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose, une communauté informelle, niet, nada. Donc, l'hypothèse non formulée, c'est que ces gens se connaissaient, ils ne se connaissaient pas. Alors, j'ai recruté quelques personnes avec des conférences comme celle-ci, au tout début du projet. J'ai dit, voilà, là. Puis je disais, ben, si vous en connaissez, venez vers moi à la fin. Puis des fois, il y a des gens qui venaient vers moi, ou ils voyaient mon email projeté là, puis ils m'écrivaient le jour même ou le lendemain. Comme ça, j'ai pu grappiller une ou deux personnes. J'ai mis une annonce dans la Tribune de Genève, qui m'a récupéré quelques personnes. Et surtout, j'ai eu un partenariat très intéressant avec les Ligues pour la santé du canton de Vaud. Maintenant, ça a été fusionné dans quelque chose qui s'appelle, je crois, Unisanté, mais à l'époque, c'était quelque chose de séparé. Et ces gens-là sont très bien organisés et ils ont une sorte de compétition qui est ouverte, pas à tout le monde malheureusement, qui est ouverte aux personnes qui sont des collaboratrices de l'État de Vaud. Donc, c'est que des fonctionnaires de l'État de Vaud. Et ces personnes qui pensent faire 10 000 pas par jour ou plus peuvent s'inscrire, faire une sorte de concours et reçoivent un podomètre. Là, je n'ai pas de choses pour vous montrer, mais mécanique. Donc, on met sur la ceinture. Et on appuie dessus le matin, on le remet à zéro, puis on marche dessus. Puis après, on doit marquer sur un papier combien c'est. Et puis, ils se font des tableaux Excel, ils font ça par équipe. Puis après, ils envoient. Et au tout début, c'était celui qui avait plus de pas qui gagnait. Puis après, ils se sont rendus compte que c'était pas génial parce qu'il y en avait un qui avait fait du cheval, puis l'autre du vélo, puis l'autre avait couru, mais à l'intérieur de sa gym, etc. Et du coup, ils se sont dit, c'est pas très bien de faire un concours. Donc en fait, c'est un peu l'école des femmes. Donc parmi tous ceux qui participent, parmi toutes ces équipes, il y a eu un tirage au sort, puis après, tout le monde est content. Mais bref, c'est un réservoir de gens qui marchent beaucoup. Donc, sur je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de participants à ça, j'ai demandé que les personnes qui ont déclaré plus de 10 000 pas par jour reçoivent un email. Et dans cet email, il y avait mon adresse email et les gens pouvaient me contacter. Donc voilà, pour faire court, il y a eu ça, puis après 2-3 autres choses, 2-3 hasards. Finalement, je suis arrivé à 70 personnes, ce qui est pas mal. Alors, parmi les 70, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas, à mon avis, complètement des grands marcheurs, c'est clair. Et puis d'autres qui, à mon avis, en étaient, mais dans la semaine et 10 jours que je les ai suivis, ils ne l'étaient pas. Toujours avec des bonnes raisons. Donc. Et ça, c'est assez drôle parce que je n'ai pas seulement fait un suivi GPS, donc en général de 8-10 jours, mais après, il y avait un entretien de suivi qui durait en général 2 heures, qui était enregistré. Non, c'est un énorme boulot pour quelque chose comme 35, 45 de ces personnes, je ne sais plus. Il y avait aussi un entretien d'entrée en plus. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, en fait, ce que je cherchais à savoir, j'avais des hypothèses de départ, j'avais des questions de recherche. Et cette question de recherche, je trouve, résonne un petit peu quand même avec cette idée de Genève 2037, c'est dans quelle mesure est-ce que ces grands marcheurs peuvent nous inspirer pour imaginer un monde où il y aurait beaucoup plus de marcheurs à l'avenir. Je l'avais exprimé beaucoup mieux que ça, mais en gros c'est ça. On découvre ces gens, c'est un petit peu de l'anthropologie, l'ethnologie à l'ancienne. On imagine une île avec une population un peu étrange qu'on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas assez bien ses coutumes. Sauf que dans ce cas-là, c'est des gens qui sont parmi nous, mais juste très rares. C'est probablement pas plus que 1 ou 2 % de la population, mais l'étude ne permettait pas d'estimer la proportion, mais c'est probablement de l'ordre de 2 %, je pense. Et ces gens-là sont parmi nous. Donc c'est une tribu de gens en plus qui ne se connaissent pas entre eux, la plupart. Et même ce qui est assez drôle, j'en ai recruté qui se connaissaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient grands marcheurs. Donc en fait, j'avais déjà l'un des principaux résultats de l'étude, c'est que d'une part, c'est des gens plutôt discrets, mais ils sont surtout discrets au sujet du fait qu'ils marchent. Ce n'est pas forcément des gens réservés dans la vie. Il y en a qui sont plutôt volubiles, qui ont plein d'amis, très sociables, etc. Mais la marche, ça reste quelque chose de très privé pour quasiment toutes ces personnes. Sur les 70, j'en ai peut-être une ou deux qui en parlent, qui essaient de recruter des amis, etc. Là, tous les autres, c'est mon truc à moi. Je pense que c'est le résultat principal de ma thèse, et ça a deux sortes de conséquences en fait, une bonne et une mauvaise. Parce que si on veut avoir une espèce d'avant-garde de grands marcheurs qui après vont convertir toute la population et tout le monde va commencer à marcher 10 000 pas par jour, puis du coup on n'a pas beaucoup de temps pour utiliser les autres moyens de transport, c'est loupé. En tout cas, c'est pas eux qui vont faire ça parce qu'ils sont peu nombreux, ils ne se connaissent pas entre eux, ils n'ont pas forcément envie de se connaître. Et ils ne parlent pas de ça et tout, c'est vraiment quelque chose de hyper privé. Et l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans les comportements pro-écologiques, parce que c'en est un, il y en a plein d'autres, on peut trier ses déchets, on peut faire plein de choses, on parle en général des motivations internes ou externes, ou alors plutôt, on peut dire aussi individuelles ou collectives. Et un des gros problèmes qu'on a, à mon avis, avec le réchauffement climatique et les autres grands problèmes environnementaux, c'est que il y a tout un mouvement qui pense qu'il faut adhérer finalement à quelque chose de collectif. Donc se dire la planète elle est à tout le monde et en fait arriver à penser collectif pour pouvoir agir. Mais le problème c'est que si on met ça comme condition, en gros c'est qu'il faut que tout le monde soit de gauche avant de commencer à sauver la planète, mais quelque part on ne peut pas le faire. Si c'est souhaitable ou pas, je ne m'en occupe pas, mais on n'a pas le temps, et peut-être même c'est impossible et ça ne se passera jamais. Et la planète, il faut la sauver tout de suite. Donc en fait, on ne peut pas exiger une conversion politique, collectiviste, pour des choses qui ont vraiment besoin d'être changées urgemment. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne nouvelle que ces grands marcheurs, ces grandes marcheuses soient mus, donc inspirés surtout par des choses individuelles, individualistes. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes individualistes. Je vous donne un exemple. C'est une personne qui habitait à ce moment-là en petit village, en petite Morge, qui me disait, moi je sors de chez moi, je marche 7 minutes. Enfin, c'est des gens, ils sont hyper précis, ils savent, ils partent à 7h23, je marche 7 minutes, puis le bus il arrive dans les 30 secondes, enfin, je m'assieds au siège X, quasiment numéroté. Ils sont assez comme ça. Mais cette femme, elle me dit, moi j'ai des copines de bus, je prends toujours le même bus, je m'assieds, je discute, j'ai des copines de bus, il y en a une que j'ai invitée chez moi, puis on a pris le thé, enfin, très sociable. Mais la même personne, donc elle prend son train à Morge, elle va à Lausanne pour travailler, elle sort du train à Lausanne, elle marche 30 minutes. Et là, il ne faut pas lui parler. C'est mon moment pour moi. Je marche, je sens le vent sur mon visage, je vois la vue. Ça arrive que des gens vous parlent, oui, mais j'écoute même pas. Alors, certaines de ces personnes, de ces grands marcheurs, ont la musique sur les oreilles. Mais d'autres, c'est presque comme si elles avaient la musique sur les oreilles, dans un sens. Donc c'est vraiment, et c'est revenu très très souvent dans les entretiens, de manière très spontanée, que les gens disaient, ben moi quand je marche, c'est un moment pour moi, je suis éteint, je suis fermé au monde. Et c'est très différent de tout un courant de recherche, surtout en France, où on parle de, des gens qui déambulent dans la rue, puis qui parlent avec tout le monde, etc. Alors sans doute que ces gens existent, mais les gens que j'ai interrogés moi ne sont pas du tout comme ça. Comme j'ai dit, il y en avait peut-être 2 sur 70 qui parlaient à tout le monde dans la rue, ou même à qui que ce soit dans la rue. Donc j'ai trouvé ce côté très individualiste dans ce comportement et pas dans le caractère général de ces personnes. Et le côté donc négatif où ces gens ne marchent pas pour l'environnement, donc c'est pas l'environnement qui font ces gens marchent. Même une fois, une de ces personnes, je l'ai poussée un peu dans ses derniers retranchements dans l'entretien, puis elle s'est énervée, puis elle a dit je suis pour l'environnement, mais c'est pas pour ça que je marche. Vraiment énervée, puis c'est pas la seule, mais c'est la seule qui s'est énervée. Et du coup, il y a un truc. Donc ça, je pense, pour les politiques publiques, c'est finalement une bonne nouvelle. Les gens marchent. Alors pourquoi? Je ne vous ai pas dit l'essentiel. Pourquoi les gens marchent? De nouveau, ce qu'on fait dans les entretiens qualitatifs, c'est qu'on pose d'abord des questions extrêmement ouvertes. Les gens, pourquoi vous marchez? Et puis après, on voit ce qui sort. Et puis s'il y a des choses qui ne sont pas sorties, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça? On est un peu plus directif après. Et ce qui vient spontanément, c'est le plaisir et le bien-être. Et la santé vient vraiment après. Donc, ce n'est pas quantitatif, je ne vais pas donner des pourcentages. Mais la santé vient peut-être en troisième position, mais en plus, à peu près. Mais c'est une santé vraiment plus psychosociale que vraiment biomédicale. Et les gens sont très au clair là-dessus. Ils disent vraiment, c'est mon bien-être, c'est pour moi, je me sens bien, je me sens mieux. Il y a une sorte de simplicité, par exemple, de nouveau la gare de Lausanne, une autre personne, elle arrive à la gare, elle rencontre des collègues dans le train, tout le monde sort de la gare, si vous connaissez un peu la gare de Lausanne, vous sortez côté ville, enfin côté montagne, il y a plein d'arrêts de bus, il y a tous les collègues qui vont chercher le bus, puis il y en a une qui, tout droit. Et c'est vrai que je l'ai fait, puis il y a quelque chose d'assez, je ne sais pas si jouissif, c'est peut-être trop fort, mais il y a une simplicité à juste sortir de la gare et marcher sans devoir aller à l'arrêt de bus. Puis est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il ne va pas partir? Donc on stresse. Ah, il n'est pas là, quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Puis beaucoup de gens se plaignaient d'ailleurs que les gens fument beaucoup. Les gens en Suisse fument beaucoup plus que dans d'autres villes, pas dans d'autres pays européens de l'Ouest et beaucoup plus qu'en Amérique du Nord. C'était d'ailleurs une des choses qui est sortie vraiment spontanément. Qu'est-ce qui dérange quand on marche beaucoup en ville, c'est la fumée de cigarettes, notamment autour des abribus. Il y a des endroits à Lausanne aussi où vous avez 3-4 abribus sur la même rue et des trottoirs assez étroits. Et ma foi, on marche d'un fumoir à l'autre. Et presque toutes les personnes m'ont dit spontanément, quand je marche dans la rue, s'il y a un fumeur devant moi, je le dépasse. Bon, presque tous marchent assez vite, donc ce n'est pas un problème. Mais j'étais assez surpris par ça. Et vu que j'ai travaillé dans la prévention du tabagisme avant, j'ai fait extrêmement attention de ne pas annoncer quoi que ce soit avant, vraiment que ça vienne spontanément, et ça venait presque toujours spontanément. J'ai aussi travaillé dans le domaine de la pollution de l'air, puis là aussi j'ai essayé de faire venir, puis après j'ai un peu pressé avec des questions. Et en fait, j'ai trouvé que les gens étaient relativement tolérants par rapport à la pollution de l'air, beaucoup plus que je suis moi. C'est pas des gens qui se plaignaient du fait qu'il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de pollution. Même le bruit, il y en a peu qui l'ont mentionné. C'était plutôt une surprise. Il y a eu très peu de mentions de conflits. Moi, j'attendais qu'on parle de cycloterrorisme, de 4x4 sur les trottoirs, de quasi-bagarre. Rien du tout, enfin. Je ne sais pas, tout le monde est beau, gentil. Oui.
En fait, est-ce qu'il y en a qui marchent avec leur smartphone, c'est-à-dire avec des applications, de la musique ou je ne sais pas quoi?
Oui.
Est-ce que vous avez aussi comptabilisé le nombre de ceux qui...
Alors, ce n'est pas quantitatif, donc je peux vous donner quelques aspects quantitatifs après, mais c'est vraiment pas une étude quantitative, c'est vraiment qualitatif. Donc, on a cherché à varier le type de gens qu'on prenait. C'est ça la presse quantitative, on essaye d'arriver à une saturation, donc on regarde tout ce qui sort de nouveau, et quand on commence à réentendre les mêmes choses, on se dit on y est. C'est ça le qualitatif en gros. Hein. Enfin, c'est pas la seule façon, mais c'est une façon assez classique. Et l'histoire du téléphone est ressortie plusieurs fois, donc c'était très intéressant d'ailleurs. Peut-être d'abord vous parler, rappelez-moi si jamais je réponds juste à une partie au début. Donc, on a regardé les portails d'entrée dans ce comportement de grand marcheur, de grande marcheuse. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on est dans le changement de comportement. Et l'idée quand même, c'est qu'il y ait, à l'avenir, plus de gens qui aient ce comportement. Surtout si ça peut remplacer des modes polluants, évidemment. Et en fait, le téléphone portable est plutôt le compteur de pas ou d'autres apps qui montrent ce qu'on marche dans la journée. C'était vraiment une porte d'entrée pour certaines personnes. Alors, il y a une marque Fitbit et puis il y a d'autres choses. Mais il y en a un, par exemple, qui a reçu un Fitbit pour son anniversaire. Et depuis ce jour-là, il a commencé à marcher, marcher, marcher. Mais son frère avait le même, ils ont commencé à se faire un peu des concours, etc. Il y en a d'autres qui ont juste reçu un nouveau téléphone ou qui avaient un téléphone déjà, qui ont décidé d'activer l'application par défaut. Et il y en a d'autres qui ont téléchargé d'autres applications. Donc, il y a des gens qui... soit qui comptent leur pas, soit qui sont intéressés par cette fonction-là. Et pour ces personnes, c'est une entrée, une porte d'entrée dans le comportement de grand marcheur. Je devrais aussi dire que parmi peut-être la cinquantaine de vrais grands marcheurs que j'ai eus, la plupart, alors certaines personnes avaient toujours beaucoup marché, mais la plupart avaient subi ou vécu plutôt parce que c'est actif, une conversion dans les deux années qui précédaient. Évidemment, c'est autodéclaratif. Moi, je ne les ai pas suivis pendant les deux ans. Mais les personnes m'ont dit, ouais, ça fait 6 mois que je fais, ça fait 1 an que je fais, ça fait 2 ans que je fais, c'était incroyable. Ça ne veut pas dire que c'est en train d'augmenter. Attention, parce que là, je vais parler du quantitatif après, on verra que ce n'est probablement pas le cas. Probablement à peu près pareil qu'avant. Mais là, j'ai trouvé des gens qui avaient changé de comportement et il y avait des motivations quand même de santé. Il y avait des motivations de gagner quelques sous, ce n'était pas énorme, mais les gens qui me disaient, oui, ben tiens, là j'ai marché, j'ai économisé 2 francs, là j'ai plus besoin de parking, ça, je gagne 5 francs par jour. Enfin, il y a des petits plaisirs, des petites récompenses qu'on se donne, si on veut, plus que vraiment la question monétaire. Il y avait le téléphone donc comme moyen d'entrer dans le comportement. Une autre chose qui m'a étonné, parce que j'avoue que j'étais sceptique au départ, c'est le Nordic Walking. Donc c'est la marche énergétique sans doute aussi avec les bâtons. Une dame, de nouveau à Lausanne, il y en avait à Genève aussi, mais c'est des exemples lausannois qui me viennent. Ça c'était extraordinaire. Une dame qui marchait très très peu, qui était vraiment extrêmement sédentaire, qui avait une bonne cinquantaine. Et elle a décidé de s'inscrire pour faire le tour du parc chez elle dans le sous-gare à Lausanne. Et puis avec le moniteur, ils faisaient des tours de parc, commençaient à connaître les gens, c'était sympa. Puis un jour, elle a décidé d'aller toute seule. Donc là, elle est entrée comme ça. Puis ce moniteur, là, qui doit être un type extraordinaire, un jour, il dit, ben, c'est sympa de faire le tour du parc, mais on peut aller plus loin. Puis il a commencé à les amener plus loin, puis passer de l'autre côté de la gare, puis aller carrément dans le centre-ville, vers la cathédrale, etc. Puis elle m'a dit, j'ai levé la tête, j'ai vu, on était à la cathédrale, je me suis dit, mais c'est incroyable. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait marcher de chez elle jusqu'à la cathédrale, qui fait peut-être 1,5 km ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré. Et en fait, donc, elle est allée toute seule faire le tour du parc, puis après, elle est allée toute seule monter, elle allait une fois avec les bâtons, après sans les bâtons, puis après, elle a commencé à marcher de chez elle jusqu'à la cathédrale, voilà, et retour. Donc, il y a vraiment, c'est touchant, je trouve, il y en avait peu, j'en ai peut-être 2-3 dans mon échantillon, mais il y a des portes d'entrée. Une autre sorte de porte d'entrée, c'est ce que j'appellerais le lâchage graduel. C'est un monsieur qui avait une voiture, il vend sa voiture, il avait un abonnement de transport public, il arrête l'abonnement de transport public, il avait un vélo, il pose son vélo, et tout ça, il a fait en 5 ans à peu près. À peu près chaque année, il lâchait quelque chose, donc peut-être en 3-4 ans, et à la fin, il n'est que marcheur. Et puis il fait évidemment des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, le téléphone un peu comme porte d'entrée, c'est possible. Il y a plusieurs personnes qui restent attachées au podomètre mécanique. Et ça m'a étonné. Donc, malgré le côté facile, parce que presque tout le monde a un smartphone, presque tout le monde a maintenant une application santé ou health qui est livrée par défaut. Puis il y en a plein d'autres, même gratuites, qu'on peut télécharger. Il y a beaucoup d'imprécisions, mais ça, c'est votre histoire. Pour la même personne, probablement, vous savez à peu près si vous faites plus le lundi que le mardi. Mais les gens sont attachés à ce côté mécanique déjà, parce qu'il n'y a pas le côté mouchard. L'information, elle est là, elle n'est pas quelque part qui pourrait éventuellement être lue. Il y a des gens qui sont assez sensibles à cette question des données, des protections de données. Et donc, ça, c'est aussi un truc à garder en tête. Le podomètre, même mécanique peut-être, un moyen pour aider les gens à commencer à marcher. Puis j'ai eu au moins un cas où c'est son assureur maladie qui lui avait donné ou prêté un de ces trucs. Puis c'est comme ça qu'il a commencé à marcher.
Je peux compléter ma question parce que des fois, on entend dire des gens qui n'aiment pas marcher, qui vont dire « Ah, c'est de la perte de temps. » Alors peut-être qu'il y en a, ils se mettent à marcher en écoutant la musique ou en répondant à tous leurs appels professionnels.
Exactement. Donc j'en ai eu un. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un cadre supérieur. Hein, évidemment, je ne vais pas le définir plus que ça. Et lui, en fait, il avait déjà, soit dans sa tête, soit dans son téléphone, une liste d'appels à faire. Et il marchait de A à B, et il savait qu'en gros, il faisait ses téléphones à ce moment-là. Et évidemment, après, ils ont l'habitude de marcher, ils ne sont plus du tout essoufflés, même en parlant, en marchant vite. Donc, il y a des gens qui intègrent l'utilisation du téléphone à la marche, de manière réfléchie et préméditée. Il y en a d'autres qui utilisent simplement pour la musique. Podomètre, on a déjà parlé. Il y a beaucoup de choses avec le téléphone portable, mais je pense comme pour n'importe quel comportement presque.
C'était voir la proportion sur les 70 personnes, si c'était 50% ont le téléphone pendant qu'il marche ou pas.
J'ai pas fait de proportion justement parce que je suis vraiment resté pur et dur dans la séparation du quantitatif et du qualitatif. J'ai aussi fait du quantitatif, je vais peut-être vous en parler maintenant. Le quantitatif, je me suis dit, je vais pas faire. L'avantage de faire une thèse aussi tard que celle que j'ai faite moi, ça s'appelle un late PhD, c'est une sorte d'institution. Dans les pays anglo-saxons ici, c'est quand même assez rare. L'avantage, c'est que j'ai vu beaucoup d'autres thèses et beaucoup d'autres choses. Je me suis dit, je ne veux pas faire comme ça. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font un projet de recherche. On se dit, ben voilà, je fais ça, je recrute 100 personnes et puis après je fais des stats dessus. Puis en général, ce n'est pas significatif. Puis même, on n'arrive pas à faire un échantillon représentatif de la population. Donc après, on définit l'échantillon. Mais quelque part, c'est faible. Quand on regarde la force du quantitatif, quand c'est bien fait. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est utiliser un énorme sondage qui est fait tous les 5 ans par la Confédération. Par des vrais professionnels, c'est une armée de professionnels, désolé pour la métaphore militaire, pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est assez carré, disons, comme organisation. Et en fait, c'est une mine d'or. Donc en fait, la Suisse, il y a d'autres pays comme ça, mais il y en a peu qui sont au niveau de la Suisse, a des sondages dans quasiment tous les domaines que vous pouvez imaginer, que vous pouvez avoir gratuitement ou presque. Bon, le PFL, c'est gratuit parce que la Confédération, mais même. Les prix ne sont pas énormes, c'est quelques centaines de francs de signer un contrat de protection de données. Puis vous avez les données brutes pour l'enquête suisse sur la santé, pour le micro-recensement transport et mobilité, c'est celle que j'ai utilisée, mais aussi pour les habitudes alimentaires, les achats, à peu près ce que vous voulez, il y a tout. Il y a tout qui est là. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe dans la population dans son ensemble, tout est déjà là. Donc c'est pour ça que j'ai absolument refusé de le faire moi. Par contre, rencontrer les gens et les voir, les visualiser, puis je regardais aussi comment ils étaient habillés, puis on posait plein de questions là-dessus. Ça, c'est unique, ça, c'est du qualitatif. Mais juste sur cette petite parenthèse quantitative, la marche est déjà un moyen de transport très important en Suisse, il faut quand même le savoir. Donc il y a différentes manières de calculer la proportion de marche. Et là, on tombe un petit peu dans le domaine des ingénieurs de transport, et c'est très différent des personnes de santé publique ou des sociologues, etc. Même si les sociologues connaissent ça, mais bon, bref. En fait, quand on parle de... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le choix modal ou le mode choix du mode de transport? Qui sait? Un petit peu? Oui. Alors, le mode de transport, donc ça peut être typiquement... Mobilité douce, ça c'est vélo, piéton en gros. Il y a motorisé individuel, il y a transport public, etc. Puis après il y a les autres. Et ce que les ingénieurs de transport aiment faire, c'est des sortes de gâteaux. Je ne peux pas vous montrer, mais c'est sur le PowerPoint qui est dans ma poche. Et on voit à peu près, ça fait un tiers de ci, un quart de ça, et puis le reste d'autres choses. Et c'est, pardon ?
On dit camembert.
Oui, c'est des camemberts, exactement. Mais oui. Et en fait, si je me souviens bien, oui, je crois que je me souviens assez bien, entre 30 et 40% à peu près de tous les déplacements en Suisse, c'est la marche. Déjà maintenant. Donc en fait, la marche est déjà un moyen de transport extrêmement important. C'est même... Non, non, alors c'est ça le problème, c'est en proportion de trajet. C'est ni le temps ni la distance. Avec le temps, c'est beaucoup parce que... si tu veux, c'est un domaine de recherche où ils utilisent les proportions. Donc ce qu'ils font à Genève, quand on parle de... des trajets qui se font en voiture, etc., c'est la proportion, c'est simplement la proportion de trajet indépendamment de la durée et de la distance. C'est comme ça que c'est fait. Et quand on regarde de cette manière-là, on voit que sur les mini-trajets, c'est 40%, donc les étapes où il y a un seul moyen de transport, c'est 41%. Et sur l'ensemble du déplacement, là où tu pourrais avoir plusieurs modes de transport, par exemple, tu sors d'ici, tu vas à la gare, tu prends le train, tu vas à Lausanne, après tu prends le bus. Tout ça, ce serait enregistré sous train dans leur base de données. La marche, elle disparaît parce que la marche, elle est considérée comme peu importante si c'est pour aller à un autre mode. Mais même en comptant comme ça, on est encore à 30% de tous les trajets qui sont de la marche. Et ça, c'est dans tout le pays, parce que j'ai gardé le mieux pour la fin. Dans les zones urbaines, c'est beaucoup plus concentré que ça. Donc là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais et je peux encore moins vous montrer, mais il y a des cartes que des collègues à moi ont faites sur ces données, où on voit, simplement on visualise les trajets à pied, donc on fait un trait entre l'origine et la destination, parce que c'est très compliqué, il faut un autre fichier pour voir exactement par où ils sont passés, et simplement en faisant des traits comme ça, on voit une espèce de grosse patate sur le centre-ville de Genève. On a fait la même chose pour Lausanne, pour Berne, Bâle et Zurich. En fait, c'est incroyable à quel point la marche est concentrée dans le centre des villes. Et c'est encore plus le cas à Genève que dans les quatre autres agglomérations que j'ai mentionnées. Ce qui m'amène à un gros problème, c'est parce que si vous regardez la carte de la pollution atmosphérique à Genève, ou si vous regardez la carte de charge du réseau routier, vous trouverez la même concentration. Donc en fait... Un des plus gros problèmes qu'on a, c'est qu'il y a déjà beaucoup de marches, mais elle se fait dans des endroits où les normes légales sont dépassées en termes EPR, EPB, donc ordonnance fédérale sur la protection de l'air, protection contre le bruit. Donc, on a... Toutes ces personnes ne sont pas des grands marcheurs, donc là, on est d'accord, mais beaucoup de la marche qui se fait, il se fait beaucoup de marches, et la plupart de la marche qui se fait, ce n'est pas en montagne, c'est négligeable ce qui se passe en montagne comparé à ce qui se fait dans les villes, mais vraiment... presque inexistant, ça fait peur les chiffres, c'est vraiment une activité essentiellement urbaine, même proches des centres-villes, il y en a beaucoup moins que dans les centres-villes, simplement, alors déjà parce que les gens marchent plus, mais en plus il y a beaucoup plus de monde, puis en plus vous avez des gens de l'extérieur qui viennent peut-être en train ou même en voiture, puis après qui marchent, c'est clair. Donc, moi en fait, au lieu de m'intéresser tellement à... Autant aux distances, enfin chaque personne en Suisse fait à peu près 1,8-1,9 km de marche par jour. Ça, c'est la moyenne. Ça, c'est dans le micro-encensement de transport. Et vous connaissez tous la courbe de Gauss. Tout le monde pense, tiens, c'est 1,8 ou 1,9 km par personne. Donc, on a une courbe de Gauss et ça se répartit autour. Donc, tout le monde est à peu près, enfin, la plupart des gens entre 1,5 km, 2 km. Puis il y en a un peu plus, un peu moins. Puis ceux qui font 0 ou 10, ben, il n'y en a presque pas. Ce n'est pas du tout comme ça. En fait, c'est une distribution où la plupart font rien. Zéro. Ou presque zéro. Beaucoup moins qu'un kilomètre par jour. Et en fait, c'est une courbe qui fait comme ça. Je crois que c'est négative exponentielle pour ceux qui aiment bien ce genre de truc. Et donc la moyenne, elle est là. Mais la courbe, elle fait comme ça. Et ici, c'est le zéro. D'accord ? Donc en fait, en regardant ce micro-encensement transport, j'ai vu que 37% de la population ne marche pas du tout dans l'espace public chaque jour. Ok ? Chaque jour. Donc lundi, il y a 37% qui ne marchent pas dans les lieux publics. Mardi, pareil. Alors, un qui ne l'a pas fait lundi peut le faire mardi et vice-versa. Hein. Mais chaque jour, on a, quand vous sortez dans la rue, vous marchez là, il y a 2/3 des gens et pas tout le monde. Bon, il y a à peu près 10%, 11% qui restent à la maison. Là, les personnes âgées sont surreprésentées, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui sont malades ou qui ont mal, etc. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que même dans un pays comme la Suisse, qui se targue d'être bien, bien fourni en matière d'aménagement du territoire, etc., j'ai trouvé qu'il y avait 25% de la population qui arrivait à conduire un véhicule motorisé sans marcher du tout dans l'espace public. 25%. Une personne sur 4, et ça inclut les gens de 6 à 99 ans, hein. Donc parmi les actifs, il y en a certainement plus que 25%. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, pour le détail, les déplacements de moins de 25 mètres ne sont pas inclus dans la base de données. Donc ça veut dire que les gens, ils ont leur voiture dans leur jardin ou à moins de 25 mètres de leur portail ou sous leur immeuble. Ils prennent leur voiture, ils vont travailler. Ils vont se garer aussi dans un endroit où, moins de 25 mètres d'où ils doivent aller. Et pareil, ils vont aller dans un centre commercial ou se garer devant un magasin ou une école. Et ils vont faire tout ça sans marcher du tout dans l'espace public. Un quart de la population. Alors ça, évidemment, c'est distribué différemment. Vous avez beaucoup plus que 25% si vous allez un peu dans les zones rurales. Ça, c'est sur l'ensemble de la Suisse. Et puis, donc, en regardant ces données-là qui sont actualisées tous les 5 ans, on a vu qu'il n'y avait probablement pas tellement d'évolution de la proportion de grands marcheurs. Mais le problème, c'est que j'ai dit au début que ces personnes-là, on les a recrutées en disant qu'elles devaient marcher plus d'1 heure par jour dans l'espace public la plupart des jours de la semaine. Mais vu que le micro-encensement transport donne l'information seulement sur 1 jour, parce qu'en fait, les gens sont appelés et ils doivent décrire leur activité très précisément de la veille, la personne qui les interroge a un écran. Et donc, même si c'est de l'auto-déclaratif, c'est très bien fait parce que la personne va dire « Je suis sorti de chez moi, j'ai tourné à gauche, je suis allé à la Migros. » Puis la personne va dire « Non, attendez, à gauche, il n'y a pas de Migros. » Parce qu'il y a tout qui est visualisé sur son écran. Je vais dire « Ah non, non, mais je veux dire à droite, puis après à gauche. »« Ah d'accord, puis vous allez traverser où ?» Puis c'est très précis. Et ce serait une vie entière juste d'exploiter ces données existantes et presque gratuites. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était très intéressant. Donc, les grands marcheurs potentiels, je les ai trouvés. Donc, chaque jour, il y a à peu près 12 à 13% de personnes qui marchent plus de 5 km. 5 km, je dis, c'est à peu près 1 heure dans l'espace public. Donc, chaque jour, il y en a à peu près 12%. Et donc, de ceux qui le font la plupart des jours de la semaine, j'ai estimé que ça pouvait être autour des 2%. Mais ça se discute. Ça peut être moins, ça peut être plus. J'ai fait un calcul. J'ai soumis à un ami qui est beaucoup plus fort en maths que moi. Et le minimum, ce serait 0,7%. Donc, ce serait impossible que ce soit moins que ça. Et le maximum, évidemment, c'est 12%. C'est la proportion qu'il fait tous les jours. Après, c'est compliqué parce que si vous marchez beaucoup le lundi, et ça, on l'a par des études internationales qui sont sur plusieurs jours, on sait si vous marchez beaucoup le lundi, il y a plus de chances que vous marchez beaucoup le mardi. Mais si vous marchez beaucoup lundi, mardi et mercredi, il y a moins de chances que vous marchez aussi beaucoup le jeudi. Donc, c'est. Là, je me suis dit, je ne suis pas mathématicien, je laisse ça à d'autres s'il y a des gens qui s'intéressent. Et puis là, je me suis dit, il faut aller vers le qualitatif, il faut vraiment voir avec les gens. Et là, en leur donnant le GPS, en les suivant les 8-9 jours, entre 8 et 10 jours en moyenne, des fois c'était 11-12, parce que des fois, ils disaient, on va vous rendre le truc, ah non, mais je ne peux pas, alors on attend lundi suivant, des fois c'était moins, des fois c'était plus. Des fois, il y a des trous dans les données, enfin voilà, un peu tout ça. On a pu donc visualiser, donc comptabiliser les gens qui faisaient vraiment 1 heure, ceux qui faisaient 1h30, ceux qui faisaient 2 heures. Et en mettant ça sur des cartes, avec des amis, c'était dans le département de faculté d'architecture à la PFL, les architectes, je ne sais pas s'il y en a ici, c'est des gens qui sont, je trouve en tout cas, très, très forts visuellement. Donc j'ai mis les, entre autres... Et donc j'ai mis les cartes des 50 personnes que j'avais réussi à suivre avec le GPS par terre. Et donc ça montrait les parcours que ces personnes avaient fait essentiellement à Genève et à Lausanne, de 3 entre 2. Et elles ont regardé ça, puis après un moment, elles m'ont dit, tiens, ça je mettrais plutôt ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Et puis en fait, j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Après, je ne sais pas quoi en faire. Peut-être c'est à d'autres de regarder si on peut en faire quelque chose. C'est des parcours qui étaient essentiellement soit continu, soit discontinu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient tout à pied. Après, ça paraît évident, mais il faut le voir. Donc, il y a une personne, par exemple, qui habite au centre de Genève et qui fait tout à pied. Alors voilà, elle ne prend jamais le bus. Du coup, tous les parcours sont reliés. Puis, il y a une autre personne qui habite aussi à Genève, un tout petit peu en dehors. On voit qu'elle marche ici, là, autour de Plainpalais, à Bernay, à Versoix. Mais les bus ne sont pas connectés. Parce que c'est une personne qui prend les transports publics, le bus, le train, puis après marche. Mais qui arrive quand même à beaucoup de marches dans la journée. Donc c'est dans les deux cas des grandes marcheuses, des grands marcheurs. Donc ça, j'ai essayé de faire une sorte de typologie. C'est mon prof sociologie qui voulait ça. Et j'ai trouvé un peu une typologie de méga marcheuses, de super marcheurs, dont un, il habite à Renan. Et il travaille ou il étudie à l'EPFL, donc c'est quand même 30 minutes, je l'ai fait plein de fois. Hein. Il fait ça tous les jours. Et après, quand il va aller à Lausanne, bah, il va à pied à Lausanne. Et ça, c'est plus que 30 minutes, c'est une heure. Et puis une fois, il voulait aller acheter un cadeau pour un copain à Lutry, il est allé à pied à Lutry. Puis un autre, il est aussi vers Renan, qui veut aller au marché à Morges, bah, il va à pied à Morges. Donc il y a des gens qui marchent vraiment énormément, même dans mon groupe. Il y a des gens qui sont exceptionnels, même par comparé aux autres. Ça, c'est des méga super marcheurs. Il y a les autres qui sont très localisés, justement, qui ne prennent quasiment pas les transports publics. C'est des gens, en général, qui habitent au centre-ville et qui travaillent au centre-ville, qui font tout à pied. Les gens que je n'ai pas, donc je n'ai pas de cycliste. Ça, c'est clair. Il n'y a presque personne qui fait du vélo. D'ailleurs, quand je commençais un entretien avec quelqu'un, puis la personne me disait « je suis cycliste », j'étais là. Oh. Après un moment, après... Au début, je ne savais pas du tout, mais après un moment, ben, après 30 secondes, je savais déjà si la personne allait être grand marcheuse ou pas. Alors qu'avant, au début, ça me mettait vraiment longtemps pour comprendre.
C'est dur d'être cycliste et marcheur. Hein.
Il n'y en a quasiment pas, en tout cas, que j'ai trouvé. Et aussi, il y en avait très peu qui faisaient de la course à pied et de la marche. Il y en avait quelques-uns, mais il y en avait vraiment très peu. Et ce que j'ai regretté, c'est que j'ai entendu parler que ça existe. Puis je les ai juste ratés, mais il y a des gens qui se déplacent en courant. Mais déjà que c'est difficile de trouver des grands marcheurs, j'ai connu quelqu'un qui allait en courant au travail. Et malheureusement, cette personne a quitté l'entreprise juste avant que je puisse l'attraper, partie à l'étranger. Et j'en ai trouvé un quand même qui faisait ça, mais il courait juste sur un kilomètre. Mais je trouvais ça quand même assez sympa. Il descendait du train, je ne sais plus où, ouais. Puis il m'allait, puis il courait un kilomètre pour aller au boulot. Puis c'est des gens, après, ils sont tellement entraînés, ils ne transpirent pas. Donc après, pour revenir à toutes les questions que je leur ai posées, ils disent tous, oui, il faut une douche au travail et tout, mais finalement, après un moment, ils sont tellement entraînés qu'ils n'ont pas besoin. Mais il y a des choses très importantes pour les personnes âgées, j'en ai eu quelques-unes. C'est les toilettes publiques. Alors ça, c'est quantitatif et qualitatif, mais c'est un vrai problème pour les personnes des deux sexes d'ailleurs, qui ont envie de beaucoup marcher. Il faut pouvoir s'arrêter dans des conditions correctes, et souvent, et si possible sans se ruiner. Donc ça, c'est quelque chose qui est sorti plusieurs fois. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, on m'a beaucoup moins parlé de ça. Moi, je trouve ça personnellement important. J'ai un grand fan des fontaines. Et d'ailleurs, après, quand on devient un chercheur dans la marche, on a une espèce de... Ça revient tout le temps. Donc, je suis allé en vacances en République tchèque. Et puis, je suis allé dans une station, pas balnéaire, vu que ça ne touche pas la mer, mais un endroit où il y a les eaux. Une station thermale, merci. Et en fait, ils ont une coutume, ils ont des comme des tasses minuscules. En général, quand on vend ça dans les endroits touristiques, il y a le nom de l'endroit dessus, Bad, je ne sais plus quoi, et on se dit c'est un souvenir. Mais pour eux, ce n'est pas un souvenir, c'est un objet pratique. Parce qu'ils se baladent avec ça, puis ils vont aux fontaines, puis ils boivent. Et d'ailleurs, quand je suis revenu de République tchèque, j'ai commencé à le faire, puis après, je ne sais plus où je l'ai mis, puis j'ai arrêté, j'ai oublié, mais c'est dommage. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours si pratique. Après, aussi, dépendant des gens, on n'a pas forcément la souplesse, on n'a pas envie forcément de se mettre de l'eau dessus, etc. Mais avoir une toute petite tasse, un tout petit verre, télescopique ou pas, chacun sa façon, pour les fontaines, je trouve que ce serait super intéressant, ça. Mais c'est quelque chose, aucun de mes grands marcheurs avait ça, c'est juste une idée comme ça. Et puis pareil pour l'habillement, alors Une fois, j'étais à une conférence, puis je voyais une jeune femme assise juste devant moi. En fait, je ne la voyais pas, elle était un peu de dos, mais elle avait les pieds un peu montés comme ça. Du coup, je voyais très bien ses chaussures. Puis je ne sais plus, la conférence, je me souviens absolument plus ce que c'était. Par contre, je regardais ses chaussures. Je me dis, mais c'est incroyable, parce que vu de haut, on dirait vraiment des chaussures très, très habillées, très formelles. Puis en regardant légèrement de côté, je me dis, mais des sacrées semelles quand même. Puis en fait, on a discuté après, puis je l'ai recrutée, puis c'était une grande marcheuse. Mais d'autres, les femmes, avaient des talons. Ils marchaient énormément en talons. Oui, il y en avait. Et parmi les hommes, il y avait aussi des chaussures de toutes sortes. Certains qui changeaient de chaussures. Alors, un, justement, à l'autre, qui était aussi assez haut placé dans son entreprise, qui ne pouvait pas, il disait, je ne peux pas aller dans des réunions comme ça. Par contre, il marchait comme un fou, puis en plus, il détestait suivre les routes. Donc, il traversait les champs, puis il finissait avec ça debout sur ses chaussures. Donc, il avait, en fait, un sac à dos avec un change d'habit complet, y compris les chaussures. Puis, en plus, vu qu'il faisait pas de, il prenait pas de prisonniers, hein, il était vraiment terrible, s'il faisait nuit, il y allait quand même. Donc, en fait, il avait tout un équipement autoréfléchissant avec les bandes jaunes, les ganaches, je connaissais même pas ce terme. C'est quelque chose qu'on met autour des chevilles. Enfin, il avait plein de choses colorées pour, parce qu'il se rendait compte qu'il marchait dans des endroits où personne d'autre marchait. Et c'était objectivement dangereux. Il n'était pas du tout anti-voiture. Lui, j'ai oublié de dire, presque tous les grands marcheurs que j'ai eus utilisaient aussi un autre moyen de transport. Donc, comme j'ai dit, très rarement le vélo. Mais il y en avait pas mal qui étaient en voiture. Donc celui-ci, il était aussi beaucoup en voiture. Donc il y avait très peu d'opposition voiture piéton. Hein, très, très peu. Et puis, je dirais, la majorité, large majorité, utilisait les transports publics, surtout le train. Et ça, peut-être, une dernière chose, après, je vais vous laisser la parole. Parmi les choses négatives, j'ai eu énormément de critiques contre les transports publics urbains. Mais vraiment, une montagne, et des gens qui vraiment s'énervaient, des gens pour qui c'était... La motivation pour marcher, c'était d'éviter le bus, surtout à Genève, mais aussi à Lausanne. Et par contre, beaucoup de ces gens, ils prenaient le train sans problème. Même un train bondé, ça passe, mais un bus qui se traîne, c'est insupportable. Et ça, j'ai eu vraiment beaucoup de gens, mais le seul avantage, entre guillemets, c'est que ça les motivait à marcher. Donc, comme j'ai dit, il y a des gens qui allaient de Genève à Lausanne, etc., ou à Neuchâtel, ou qui faisaient des grands parcours. Puis après, refus des transports urbains, on fait tout à pied. Donc j'ai eu une... Je parlais de la typologie avant. Par exemple, elle habitait à Morges et travaillait à Lausanne, ou était très souvent à Lausanne. Et puis, en fait, quand on regardait, elle faisait tout à Morges et tout à Lausanne à pied. Mais elle prenait le train quand même de l'un à l'autre. Donc, c'était quelque chose d'intermédiaire entre le côté relié et le côté séparé. Voilà. C'était juste un exemple.